France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. On touche à la technique pour cette dernière de la semaine. Technique audio de pointe. Tout d'abord avec notre candidat de l'Allier, il se prénomme Guillaume. Il est ingénieur du son. Son invention, qui risque de déboussoler les novices en matière de prise de son musique, présente le mérite d'être hissé à un niveau d'exposition internationale via le prochain NAMM, le plus grand salon d'équipements musicaux qui se tiendra l'été prochain en Californie. De l'Allier à la Californie, pas une mince affaire. La deuxième invention s'adresse aux professionnels et chercheurs des forêts qui abordent ce patrimoine par la canopée. Il s'agit d'une plateforme baptisée EpiFit, imaginé et testé en Ariège.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Guillaume Chauvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'origine d'une marque de matériel audio, donc destinée aux professionnels du son, un GC Audio, GC comme vos initiales. La particularité, sans entrer dans le détail, mais on va le dire quand même. J'essaie de comprendre. On a un matériel, un rack, et dessus, on a des cartouches qui sont interchangeables.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, on a essayé de développer un préampli. Un préampli pour microphone ou pour instrument de musique. En fait, un préampli, c'est un appareil qui va se situer entre le micro et la carte son d'un ordinateur, par exemple, si on veut faire un enregistrement sonore. Et en fait, ce qui se passe, ce préampli, c'est un élément très important pour la qualité du son. Notamment, ça va définir le niveau de souffle, mais ça va définir aussi la couleur tonale, plein d'éléments. Et aujourd'hui, les ingénieurs du son, par exemple, qui se servent de ces appareils dans les studios d'enregistrement, souvent ont plusieurs préamplis qui vont utiliser suivant le style de musique, suivant le type d'instrument, on va pas vouloir avoir la même identité sonore. Donc jusqu'à présent, on utilisait plusieurs préamplis, plusieurs racks, ce qui demandait d'acheter plusieurs appareils en définitive. Ce que l'on a essayé de faire, c'est de regrouper tout ce qui était commun, c'est-à-dire l'alimentation, les vumettes, les boutons, et tout ce qui n'était pas commun, le déporter sur une cartouche séparé,
ouais.
Un petit peu comme une console de jeux vidéo. Et cela permet à l'utilisateur de tester rapidement plusieurs préamplis, plusieurs donc couleurs sonores, plusieurs qualités différentes aussi, suivant le résultat attendu, sans avoir à brancher, débrancher la connectique et sans avoir à racheter à chaque fois l'environnement commun qui est les alimentations, les lumettes, etc.
Ouais. Et depuis que vous avez inventé, parce que c'est une véritable invention, vous fabriquez à grande échelle, comment vous vous organisez?
C'est une invention dans le sens où effectivement le concept existe déjà, par exemple dans les consoles de jeux vidéo, mais il n'existait pas pour ce genre d'appareil. Et alors, on était jusqu'il y a quelques mois dans un marché plutôt restreint, parce que c'est très difficile, c'est un marché de niche tout d'abord. Et assez récemment, on a le produit en fait a été sélectionné et nominé finaliste d'un concours d'innovation qui est assez réputé, qui s'appelle les Tech Awards. C'est un concours qui se fait dans le cadre du NAMM. Le NAMM, c'est le plus grand salon mondial dédié au domaine audiovisuel. Ça se passe chaque année à Los Angeles. Et à la fin du NAMM, il y a une cérémonie qui va récompenser les meilleurs produits annuels dans chaque domaine d'application. Et notre produit, grande surprise, en juillet dernier, c'est un peu inattendu, a été nominé dans les 6 finalistes dans la catégorie voilà des préamplis micro. Et donc effectivement on doit se rendre à Los Angeles en juin prochain pour la cérémonie de remise des prix. Et puis cette distinction nous a ouvert un marché mondial qui donne une croissance à notre activité un peu inattendue.
Et tous les produits sont français, sont conçus et fabriqués en France?
Oui, tout à fait. C'était une des conditions de départ. Quand j'ai commencé de faire le design électronique des produits, c'était de pouvoir faire une fabrication française. Et alors, je vous avoue, c'est pas forcément facile parce qu'il faut trouver un équilibre entre ce qui est raisonnable de faire pour que l'utilisateur ne soit pas non plus trop trop cher, mais l'idée c'est d'avoir une qualité premium, puisqu'en général les personnes qui travaillent dans les studios d'enregistrement demandent une qualité premium pour avoir une qualité de son sans compromis. Et effectivement, on fabrique tout en France. Alors bien sûr, certains composants ne sont fabriqués qu'à l'étranger. Ouais. Mais sinon, évidemment, tout l'assemblage, la fabrication des cartes électroniques, tout se fait en France.
On est ravis de présenter une jeune société française qui va aller en finale à Los Angeles l'année prochaine dans le cadre de ce grand salon international de musique. Je signale d'ailleurs au passage que vous avez avec votre papa une société spécialisée dans la sonorisation, l'éclairage de concerts et un studio d'enregistrement d'Omera qui s'appelle Eldora Productions, donc vous connaissez bien la musique, c'est le cas de le dire. Du côté de Montluçon aussi, parce qu'à Montluçon, on a aussi un musée de la musique.
Le Mupop, oui.
Le Mupop, exactement. L'adresse, c'est GC, comme les initiales de Guillaume Chauvet. GC-audio.com. Et alors, bonne chance pour la finale.
Merci beaucoup. et merci beaucoup pour l'attention toute particulière que vous prêtez à notre travail, votre émission est super, merci beaucoup.
Merci Guillaume.
France Inter, carnet de campagne.
Nous avions ouvert la semaine avec l'association Allier Sauvage, nous la refermons avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de l'Allier qui redouble aussi d'efforts pour prendre soin de sa rivière. Estelle, correspondante des carnets et directrice du conservatoire depuis plus de 15 ans, nous transmet des nouvelles de cet organisme associatif qui a pour mission la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel. 16 professionnels sont salariés par cette structure qui a engagé depuis longtemps des partenariats avec les propriétaires, les agriculteurs, les pêcheurs, les syndicats d'alimentation en eau potable. Le territoire couvert par l'association est également riche d'un patrimoine historique, archéologique et culturel. Ces éléments ont été mis en lumière à travers une démarche, écrit-elle, participative associant les habitants, les invitant à partager leurs connaissances sur l'histoire des déplacements de la rivière et de ses usages. Ce travail collaboratif a donné naissance à un livre sur les traces de l'Allier, histoire d'une rivière sauvage. Cet élan a donné l'envie aux riverains et aux collectivités de redécouvrir ce patrimoine. Seulement, comme le précise Estelle, les initiatives de valorisation sont peu coordonnées et sont parfois impactantes. Alors, pour donner du sens et du corps à ces actions, le conservatoire a proposé à ces acteurs du territoire de se réunir, soit 200 structures, collectivités, parlementaires, autour d'un projet de labellisation Ramsar. C'est un équivalent du label patrimoine mondial de l'UNESCO, des territoires liés à l'eau et aux zones humides d'importance nationale et internationale. Si vous êtes intéressé par le suivi de cette future disposition, le site du conservatoire est cen-allier.org. Marion Loube, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de Tout là-haut, une association qui est basée à Sainte-Croix-Volvestre, en Ariège. Vous êtes devenue spécialiste de la cime des arbres et vous avez conçu une plateforme dédiée à la recherche en milieu vertical.
Absolument. Il y a une vingtaine d'années maintenant qu'on est sur l'accompagnement de scientifiques en milieu vertical, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait une demande de chercheurs amateurs, de naturalistes professionnels aussi, qui avaient des difficultés pour accéder à cette partie quand même très importante de la biodiversité, puisqu'elle accueille plus de 70% des espèces vivantes en milieu tropical.
Oui. On connaissait l'approche des cimes par la canopée avec Francis Allais, qui est une référence évidemment pour vous. Qu'est-ce que vous apportez de plus avec cette plateforme ?
Alors nous, contrairement au radeau des cimes qui lui va venir se poser sur la canopée, nous, notre particularité, c'est que notre plateforme, elle s'installe par l'intérieur de l'arbre, c'est-à-dire qu'il faut y grimper, et surtout, elle ne cause aucun dommage à l'arbre qui nous accueille. Une fois qu'on a enlevé notre plateforme, il est impossible de dire qu'on s'est posé là pendant 3 semaines ou 2 mois.
Alors, tout commence il y a quelques années déjà, avec Mathias, qui était parti avec l'association Insectes du Monde en République centrafricaine.
Voilà, alors là-bas, ils étaient partis 2 mois pour cette expédition-là, et c'était la première fois qu'un grimpeur accompagnait cette association, et donc ils avaient pris le parti d'abattre des petits arbustes au sol, et de les hisser jusqu'à la canopée pour y monter des plateformes, mais plateformes qui faisaient 1 mètre carré au grand maximum, quoi. Donc très très étroit, pour pouvoir y poser des draps de chasse lumineuse, on appelle ça. C'est quand on met une lumière UV contre un drap dans la nuit pour attirer un maximum d'insectes et de papillons et pouvoir faire un inventaire.
Alors, vous dites, cette plateforme, Marion, on peut la hisser à la cime, au sommet des arbres, mais ça paraît simple. Je fais un plateau en bois, je le hisse en haut et c'est bon. Là, il y a quand même une technique bien particulière.
Alors, dans l'absolu, c'est ce que vous dites, c'est tout simple, sauf qu'en réalité, hisser du bois tropical, même si c'est un arbuste, ça pèse très très lourd. Mmh. Ça faisait hisser jusqu'à environ 100 kg de bois pour des plateformes de 1 mètre carré. Nous, notre épicyte, elle pèse 54 kg, tout compris, et elle s'installe en moins de 2 heures, en fait, sans couper aucun arbre.
Et elle se fixe comment ?
Elle se pose sur l'arbre, en fait, et ensuite on l'arrime avec un système de cordes.
Et vous l'appelez épiphyte ?
On l'appelle épiphyte, qui veut dire qui pousse sur une autre plante sans la parasiter.
Oui. Et vous avez réalisé les premières plateformes avec un lycée technique de la région parisienne.
Tout à fait, le lycée Nadar qui nous a accompagnés, parce que on avait un ami qui était professeur dans ce lycée et qui a été tout de suite intéressé par le projet. Et donc c'est les lycéens et l'enseignant qui ont réfléchi à la forme de certaines pièces centrale pour qu'elle puisse résister à des histoires de force, de vent, de poids, etc.
Vous avez dupliqué ces plateformes, vous en avez plusieurs ?
Alors à ce jour on n'en a qu'une, mais c'est vrai qu'on est en projet là avec l'INRAE pour cette année qui serait intéressé pour eux investir dans un petit lot d'une dizaine d'épiphytes et pouvoir les installer dans les forêts tempérées pour faire une étude de la canopée des forêts tempérées.
Je me mets à rêver d'une chose, Marion, parce qu'on a des sites forestiers remarquables en France et en Europe. Je sais qu'en Allemagne, un équivalent, c'est une passerelle qui est très haute et qui permet d'avoir une vision globale du patrimoine forestier autour de soi. Pourquoi pas imaginer un développement sur la base d'une plateforme, et là, c'est cette fois une plateforme à grande échelle, un espace de découverte des écosystèmes.
Alors, je vous avoue qu'avec tout là-haut, on peut tout imaginer. La seule limite qui nous est imposée, c'est la limite de l'imagination des gens qui nous demandent nos services. Nous, on peut tout inventer, on peut tout imaginer. On a envie de dire que voilà, on vous donne accès à l'inaccessible. Donc si effectivement il y a, je ne sais pas moi, une commune qui a un grand patrimoine forestier qui voudrait valoriser, on peut tout à fait envisager, plutôt qu'une grande épiphyte, pourquoi pas plusieurs petites reliées par des passerelles. Enfin, en tout cas, tout est possible et tout est imaginable dans le but du respect du vivant. Mmh. Parce qu'il nous a été fait des propositions pour qu'on installe des passerelles en forêt tropicale pour pouvoir observer les peuples pygmées dans leur milieu naturel.
Non.
Comme s'ils étaient des girafes ou des singes. Et ça, par contre, on a dit non, c'est impossible. On peut pas, enfin, on fait pas du zoo, quoi. Encore moins du zoo humain, comme ça se faisait dans les siècles passés.
Et vous formez des chercheurs à la grimpe d'arbres?
Tout à fait. Pour que les chercheurs puissent accéder tranquillement à l'épiphyte et puis aussi évoluer autour de la plateforme pour pouvoir aller observer une fleur, une feuille, une mousse, une plante épiphyte ou que sais-je, eh bien on les forme à l'utilisation des cordes et au déplacement en canopée. Ils peuvent acquérir en quelques semaines les bases du déplacement et ensuite c'est nos grimpeurs qui prennent le relais pour les actions vraiment engagées et difficiles.
Toutlahaut.org, c'est l'adresse de l'association présidée par Marion. Merci Marion.
Merci à vous de nous avoir appelés, en tout cas c'était un plaisir.
On change de région avec une dernière invitation si vous habitez le Trégor et entre autres Trébeurden, dimanche prochain, dimanche après-midi, 14 novembre. Fred, directeur artistique de Trégor Cinéma, nous invite l'après-midi à la fête du court-métrage. Toute l'après-midi, donc ce dimanche 14 novembre, c'est à la salle du sémaphore de Trébeurden. Il nous envoie un message parce qu'il craint un défaut de fréquentation à cause des conditions sanitaires. Le site, c'est trégorcinéma.com. Merci à Joël Levert qui donne du contenu à nos carnets. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur donnent du volume, et entre autres Rémi Sistiaga aujourd'hui. Nicolas Stoufflet, assisté de Yann Paillet, nous attend à Moulins pour la dernière du jeu des 1000 euros.